chaque diapo entièrement, mais Joseph, déjà, le père de Joseph, c'est qui ? Jacob. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Hein. Et donc, Jacob, déjà, à la maison, ça n'allait pas trop bien. Déjà, lui, sa maison était dysfonctionnelle. Ils étaient deux jumeaux, mais très différents l'un de l'autre. L'un restait à la maison, et puis c'était le fils à maman. L'autre, c'était un homme de l'extérieur, roux, vif, chasseur, et fils à papa. Et ben, ça crée des tensions. Hein. Et il y a un moment où... et puis, bien sûr, ils sont jumeaux, mais il y en a un quand même qui est né avant l'autre. Et c'était Ésaü, qui était celui qui est né avant son frère Jacob. Et donc, bon, je prends l'histoire un peu là, Genèse 28. C'est là, Jacob vient de tromper son père, et en trompant son père, il a volé la bénédiction qui était pour le frère aîné. Il l'a prise pour lui, il la voulait. Donc, comme son père était aveugle, il l'a trompé et son père l'a béni, lui, pendant que le grand frère était absent. Bien sûr, ça n'a pas plu. Et le grand frère, il se fâche. Et même quelqu'un entend dire que si jamais je la... Dès que papa sera mort, moi je lui fais sa fête. Je le tue. Donc, la maman, elle a entendu cela. Et comme Jacob, c'était son petit préféré, elle lui dit, écoute, toi, il vaut mieux que tu ailles chez ton oncle, chez mon frère Laban, et là, eh bien, tu vas attendre jusqu'à ce que les choses se calment, jusqu'à ce qu'on t'avertisse que les choses vont bien. Donc, chapitre 28, alors c'est ça un peu, Jacob, il doit fuir, parce que derrière la maison, il ne peut pas rester à la maison, il fuit, il va chez son oncle. Genèse 29, Jacob rencontre sa cousine, une de ses cousines en tous les cas, Rachel. Et donc après, il est reçu dans la maison de son oncle. Et il est là un peu de temps, mais il se rend compte très vite que son oncle, c'est pas quelqu'un, c'est pas... un philanthrope, hein. C'est pas quelqu'un qui cherche le bien de tout le monde, c'est un profiteur aussi, c'est un malin. Et quand un malin rencontre un malin, il y en a un qui se fait avoir. Hein, et donc il rencontre Rachel, il aime bien Rachel, et son oncle lui dit, écoute Jacob, c'est pas parce que tu es mon neveu que tu vas rester là... je vais te récompenser pour ton travail. Et Jacob dit, écoute, tonton, hein, c'est bon, c'est la traduction Steve, hein, il dit, tonton, écoute, je travaille, Rachel, j'aime Rachel, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Parce qu'il arrive avec les mains dans les poches et tout ça, donc bon, il va offrir 7 années de travail pour... Rachel. Et l'oncle trouve ça, il dit, il n'y a pas de problème, je préfère te la donner à toi qu'à un autre, donc il n'y a pas de problème. Et les 7 années passent, et si vous lisez dans le récit, il a dit que c'est passé comme en peu de temps, tellement il était amoureux, il n'a pas senti 7 années passer, c'est vite passé. Et arrive le bout des 7 années, il va voir son oncle, il lui dit, écoute, tonton, tu sais, tu te rappelles ce qu'on avait dit ? 7 années, et tu me donnes Rachel comme épouse. Et l'oncle lui dit, pas de problème, on fait le mariage. Ils font le mariage, la fête, et puis en avant. Et puis certainement qu'ils avaient les grands moyens, parce qu'ils avaient... Et puis, mais la surprise, le lendemain matin, c'est que... il se réveille le matin et puis il trouve que c'était pas Rachel qui avait été donnée, mais sa grande sœur Léa, qu'il aimait moins. pas qu'il ne l'aimait pas, mais bon, il était amoureux de Rachel. Et il se trouve marié à Léa. Et donc, et quand il lui donne Léa, ben il lui donne, bien sûr, c'était la coutume au Léa, donc il lui donne l'épouse, et puis après, il y a la servante qui vient avec, qui sera au service de l'épouse. Donc, il y a la servante Zilpa. Donc, vous avez deux noms là qu'il faut commencer à retenir, c'est Léa et Zilpa. Léa, c'est une cousine, c'est la sœur, mais c'est pas celle que voulait. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait ? Jacob avait trompé son père. Hein, il s'était couvert les bras, il avait changé la voix, il avait fait tout ça, il a trompé. Et là, maintenant, c'est lui qui se fait tromper. Hein, vous savez, quand on trompe les autres, il faut s'attendre à trouver plus malin que soi. Ça me fait penser à ce verset là de Galates 6, 7 qui dit « Ce que un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que je sème, je moissonne. » Vous connaissez peut-être le proverbe en français, hein, qui sème le vent récolte la tempête. Hein, sème le vent à la tempête, mais ça vient de la Bible, hein, c'est dans les proverbes. Sème le vent récolte la tempête. Mais ce qu'on sème, on récolte. Ce que je fais pour un autre, il faut s'attendre qu'un jour, quelqu'un me le fasse. Hein, on n'est jamais tellement malin qu'on est plus malin que tout le monde. Il y a un jour, si je mens, il faut s'attendre que quelqu'un va nous mentir. Si on triche, quelqu'un va tricher. C'est garanti. Hein. Donc, Jacob, il a trouvé un oncle. Peut-être que l'oncle faisait semblant de l'aimer, mais bon. Et puis, j'ai pensé au deuxième verset là, de Matthieu, chapitre 7, dans le sermon sur la montagne. Il dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que la règle que tu as appliquée aux autres, un jour on te l'appliquera. C'est très facile pour nous, quand ça concerne notre quelque chose qui nous regarde, de dire, ah non, c'est pas juste ça, ou bien de dire, oh, ben, c'est pas grave, hein, laisse tomber, tout ça. Mais quand ça arrive avec quelqu'un d'autre, ah non, c'est sérieux. Hein? Et dans le jugement, ça veut dire jugement pour le jugement sévère ou en étant généreux, hein, en étant miséricordieux. Si je suis, je pardonne facilement, je serai pardonné. Si je condamne facilement, je serai condamné aussi. Et vous savez, si on est strict avec les autres, eh bien un jour quelqu'un sera strict avec nous. Hein, quand on voudra un peu de marge, il n'y en aura pas. Et ça, c'est une réalité dans la vie de tous les jours. Et là, Jacob, il va apprendre à ses dépens. Et il vivra avec Laban pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, constamment, il se trouve avec quelqu'un qui est en train de toujours essayer de... Et lui, il essaie de tromper, l'autre essaie de le tromper. Et puis, si vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'est sans fin entre eux deux. Pour comprendre que Jacob ne marche pas avec Dieu à ce moment-là. Hein? Il est loin de Dieu. Il a connu Dieu à la maison. Il a entendu parler de lui. Même pendant sa fuite, il y a un jour, il est à Bethel. Et il a le songe et Dieu lui dit « Je serai avec toi, mais écoute, et vous lisez l'histoire, et il dit « D'accord, si tu es avec moi, on verra. Quand j'ai fini, à la fin, si je vois que tu m'as gardé, eh bien je penserai à toi. » Carrément. Comme si c'était généreux, comme Dieu avait besoin de lui. Hein? Il rendait service à Dieu. Mais là, donc... C'est avec un Jacob, père de Joseph, mais voilà comment il vit. Hein. On a affaire avec... on est dans une famille où les choses se passent de cette manière. Alors, Jacob va voir son oncle, il dit, mais tu m'as trompé, c'était pour Rachel, c'était pas pour Léa. Il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux ? Reste encore 7 ans et je te donnerai Rachel. » Et donc, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est amoureux de Rachel, ben, il travaille encore 7 ans. Et finalement, au bout de, donc, au bout de 14 ans, il a Rachel, et son oncle lui donne, donne à Rachel une servante, Bila. Et donc maintenant, Jacob se trouve avec 4 femmes dans la maison. Hein? Donc Léa, sa servante, Rachel et sa servante. Ça en fait beaucoup pour une maison. Et en plus, là, vous voyez numéro 4, Jacob. Hein, c'est, donc on va commencer là, on va commencer à regarder les passages là parce qu'on bouge moins vite là. Mais donc prenez 29 et au verset 30. Il dit que Jacob alla vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et c'est, on peut dire, oui, mais bon, on n'est pas toujours obligé d'aimer celui qu'on n'a pas choisi, on n'est pas obligé. Vous savez, l'amour est un choix. Hein, l'amour, on choisit d'aimer quelqu'un. Les gens qui dépendent d'un amour qui est un sentiment, eh bien, ça ne dure pas longtemps. Parce que les sentiments, ça vient et ça part. Hein? Donc, si seulement j'aime quelqu'un parce que je l'aime, parce que c'est le sentiment que je l'aime, mais bon, il viendra un jour où le sentiment ne sera plus là, et puis après, je dis, j'aime plus cette personne. Et donc, il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de mariages qui vont en l'air juste parce que c'est basé sur les sentiments. Quand j'ai envie de l'aimer, quand j'ai des sentiments, je l'aime. Quand je n'ai pas de sentiments, je vais trouver quelqu'un d'autre. Tandis que quand c'est une question de « je vais aimer cette personne », c'est un choix, et je fais le nécessaire pour l'aimer, je peux aimer. Et on peut aimer, ce n'est pas parce que quelqu'un est aimable qu'on l'aime. Sinon, Dieu ne nous aurait jamais aimés. Hein. Dieu, l'amour de Dieu, c'est un amour, il peut aimer des gens et qui sont désagréables, des gens qui l'aiment pas, des gens qui le critiquent, les gens, ils les aiment quand même. Et c'est cet amour-là qu'il nous faut en tant que chrétien, quand on parle de l'amour de Dieu, c'est cet amour-là. L'amour, je choisis, j'aime, même si la personne n'est pas aimable, même si ces gens ne sont pas aimables, même si les voisins sont désagréables, mais c'est pas eux qui décident de qui j'aime, c'est moi qui décide de qui j'aime. Parce que c'est-à-dire, le gars, il tombe amoureux de la fille parce qu'elle est belle. Mais un jour, elle est plus belle, et donc il ne va plus l'aimer, parce que la raison pour laquelle il l'aimait, tiens, elle n'est plus là. Tandis qu'il dit, c'est elle la femme de ma vie, je vais l'aimer. Il l'aime même le jour où elle sera dans une chaise roulante, ou même si elle perd sa vue. Non, je l'aime. Je l'aime parce que je l'aime. J'ai choisi de l'aimer. Et Jacob, dans un sens, alors quand il dit qu'il aime Jacob plus que Léa, c'est qu'il a choisi comme ça. Pour lui, dans sa tête, non, Léa, ses yeux ne me plaisent pas, tandis que Rachel, elle me plaît. Donc, je l'aime. Et nous devons faire très attention en tant que chrétiens. Hein, si on va refléter l'amour de Dieu, eh bien, on doit le refléter tel que Dieu. Oui, il aime. Ça ne veut pas dire qu'on approuve tout. Hein. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on approuve. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça ne veut pas dire que la personne, on ne la voit pas comme désagréable ou pénible. Mais je l'aime. Et Jacob, déjà, il y a un premier problème qui se développe. Et si dans mon cœur... nous-mêmes, hein, dans notre cœur, si on commence à avoir oui, celui-là j'aime pas, celui-là je supporte pas, c'est pas une question de je l'aime pas, peut-être je peux pas travailler avec lui à cause de sa personnalité, j'ai du mal à travailler avec lui, mais c'est pas pour ça que je vais le haïr, hein. C'est pas pour ça que je vais le rejeter. Et donc nous devons faire attention déjà dans nos familles, hein, que que vraiment je décide si je suis enfant de Dieu. Les gens du monde, c'est un autre problème. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, c'est un autre problème. On ne peut pas avoir les mêmes exigences pour eux. Hein. Et c'est pour ça que si mon voisin est inconverti, et puis il ne m'aime pas, et puis tout ça, ben bon, je ne peux rien. Et le pauvre, il ne connaît pas le Seigneur. Tandis que moi, je connais le Seigneur. Hein. Parfois, j'ai envie de lui dire, heureusement pour toi que je suis chrétien et que je t'aime quand même. On a envie de lui dire. Mais ce n'est pas ça. Hein. La question, c'est moi, ce que je le fais à cause de ce qu'il y a dans mon cœur. Non pas à cause de ce que lui fait, ni à cause... Sinon, c'est lui qui me contrôle. Hein. Si c'est parce qu'il est gentil que je l'aime, c'est lui qui contrôle mon amour. Tandis que je l'aime, peu importe ce qu'il fait, c'est moi qui contrôle mon amour. Hein, c'est Dieu, c'est comme cela. Donc, Dieu voit cette injustice. Hein, donc, au verset 31, il nous dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Donc, Dieu établit une certaine justice. Et Léa espérait, parce qu'elle donnait des enfants à Jacob et que Rachel, que peut-être que Jacob commencerait à l'aimer. Mais c'est ça la situation qui existe dans la maison. Hein. Et quand il y a des préférés, quand il y a des favoris, tout ça, ça crée toujours des tensions. Donc, Romains chapitre 12, regardez avec moi dans Romains chapitre 12, même s'il y a le texte ici, mais c'est bien parce que ça vous donne l'occasion de faire une note ou de souligner. Mais Romains chapitre 12, c'est un passage déjà sur la vie chrétienne, hein, jusqu'au chapitre 11, c'était surtout de la doctrine. Mais là, chapitre 12, ça commence, c'est la vie chrétienne. Hein. Et donc au verset 17, Jean Romains 12, 17, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et comme je disais tout à l'heure, hein, si je rends le mal pour le mal, l'autre me contrôle. Hein, parce que c'est parce qu'il a fait mal que j'ai rendu mal. Donc je réponds, c'est lui qui prend l'initiative et moi je réponds à ce qu'il fait. Donc c'est lui qui me contrôle. Et c'est pareil pour un geste de gentillesse. Hein. Ah, il a été gentil avec moi, il faut que je sois gentil avec lui. Ben, il me contrôle. C'est normalement, dans notre vie, il n'y a que Dieu, le Saint-Esprit, qui nous contrôle, et personne d'autre. Dis ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et ça n'a aucun rapport avec le comportement des autres. Moi, je cherche le bien devant tous les hommes, peu importe comment ils se comportent. Parce que je fais ce que moi je suis libre, je fais ce que je veux. C'est pas, je ne suis pas sous la domination de quelqu'un, je ne suis pas sous l'influence de quelqu'un, sinon Dieu. Je suis libre. Donc moi je fais ce que ma vie nouvelle me dicte de faire. Hein. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il comprend que parfois il y a des situations impossibles ou difficiles. Il dit soyez en paix autant que cela dépend de vous. Maintenant, si l'autre, il fait des choses qui rendent la paix impossible, mais c'est lui. Mais je ne veux rien faire qui provoque cela. Hein, donc, autant que cela dépend de vous. Alors, parfois, ça veut dire qu'on ne répond pas. Parfois, ça veut dire que, eh bien, on ne réagit pas selon l'autre, mais on réagit autrement. Et même, il nous dit, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, c'est-à-dire celle de Dieu, hein, c'est celle qui est... car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. » Donc s'il y a injustice, s'il y a quelqu'un, bon, ça ne veut pas dire qu'on se tait et puis rien, non, on va voir, on dit « Écoute, moi je trouve que l'autre dit « Non, n'importe » et insiste, « J'y peux rien, ben, je subis la justice, je dis Dieu, je remets la situation entre tes mains. » Et c'est après, on compte sur Dieu, et ça c'est un acte de foi, hein, de faire confiance à Dieu, d'intervenir et de faire justice. Maintenant, lui, après, il ne faut pas lui donner un agenda ou un calendrier, hein, faut pas lui dire, écoute, je te donne jusqu'à la fin de la semaine pour faire justice. Non, non, après, c'est lui qui décide. Hein. Une fois qu'on remet la chose entre ses mains, la situation entre ses mains, on dit, Seigneur, moi, je peux rien, là, c'est impossible pour moi, je peux plus intervenir. Donc, moi, je me retire, et c'est toi qui vas faire justice. Il y a injustice, mais c'est toi qui feras justice. Et là, c'est par la foi, on remet la chose entre les mains de Dieu. Verset 20, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire, il sera gêné. Hein. La honte, il sera gêné. Mais, lui a été méchant, mais toi tu fais ce qui correspond à toi. Donc toi, même s'il a été méchant, toi tu fais bien. Et après lui, il ne va pas savoir comment répondre. Hein, si on prend on reçoit un coup de poing, on rend un coup de poing, il trouve ça juste. Hein, je ne suis pas meilleur que lui, je ne peux pas me plaindre de ce qu'il ait donné un coup de poing, j'ai fait aussi. Hein, j'ai fait la même chose. Donc je n'ai pas à me plaindre, c'est... Tu es rentré dans ce jeu-là, ben, encaisse. Mais si il fait un mauvais coup, et moi je réponds par quelque chose d'agréable, ou de gentil, ou la police arrive, et je dis non, je ne porte pas plainte. Le gars, il sort, il dit, pourquoi il a fait ça? Alors que il y a des manières. Bon, il faut que le Seigneur donne de la sagesse. Hein. C'est pas une question de se faire marcher dessus, mais c'est une question de. Je ne réponds pas selon l'autre personne. Je réponds selon ce que Dieu voudrait de moi. Hein. Et il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, dans la vie de tous les jours, hein, on a largement des occasions pour rendre le bien pour le mal. Hein, ça arrive. Mais on reste, je veux rester libre devant les hommes. Je ne veux pas qu'ils puissent m'accuser de quoi que ce soit. Et je reste libre devant Dieu, dans le sens que je fais ce que Dieu veut que je fasse. Hein. Ce n'est pas une autre personne qui va m'influencer dans mon comportement. Donc, autant je ne veux pas être sous l'influence d'une drogue ou de l'alcool ou de quelque chose, je ne veux pas être sous l'influence de la colère, ni sous l'influence de la méchanceté de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des autres pouvoirs qui domine sur moi. Je ne veux pas que ces autres pouvoirs dominent sur moi. Je veux que ce soit uniquement Dieu, hein, qui soit sur moi. Et être sous le pouvoir de Dieu, c'est la liberté, hein, pour l'être humain. Donc, Jacob, lui, il a essayé de régler les choses lui-même. Et il s'est retrouvé avec une drôle de situation. Parce que lorsqu'on regarde dans Genèse 29, alors on commence à avoir les enfants de Jacob, et bon, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais Léa commence à enfanter, donc elle a un premier fils, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, hein, donc les quatre premiers fils de Jacob, et puis elle arrête d'enfanter. Alors Rachel se dit, ah, moi, je suis stérile, je ne peux pas. Donc, elle va aller proposer sa servante, Bila, à son mari. Elle va dire, écoute, va vers ma servante et qu'elle te porte des enfants. Hein? Donc, du point de vue culturel, ça se faisait à l'époque. Hein? C'est pour ça que Sarah avait fait ça avec Agar. C'était une manière, aujourd'hui, il y a d'autres manières de faire les choses. Hein? Mais ce n'est pas parce que la culture ou la société permet des choses que c'est juste devant Dieu. Nous, on ne vit pas sous les règles de la culture, même si l'État français nous permet de faire des choses, ce n'est pas pour ça que je vais les faire, si Dieu ne me permet pas. Donc nous devons faire très, très attention. Il y a des tas de choses que l'État français me permet de faire, que la Bible ne permet pas de faire. Donc si je suis enfant de Dieu, je me mets sous la loi de Dieu. Hein? Alors ça veut dire que mon patron, il peut faire des choses que moi, je ne ferais pas à sa place. Hein? Lui, il n'a que la loi française, tandis que moi, j'ai la loi de Dieu. La loi de la sortie d'école, c'est « tu m'as tapé, je te tape ». La loi de Dieu, si, c'est pas ça. Tu m'as tapé, mais moi je te tape pas. Je te parle gentiment. Et j'essaye de faire de toi un ami. Ça, c'est une autre loi, c'est une autre culture. Hein, donc nous devons faire très attention. Donc là, mais bon, Rachel, voyant qu'elle n'a pas d'enfant, elle va proposer Bila à Jacob. Et donc Jacob aura deux fils par Bila, Dan et Nephtali. Alors Léa a dit, moi aussi je vais donner ma servante, et donc elle prend sa servante Zilpa et elle le propose à son mari, et donc il y a encore deux garçons, Gad et Aser. Et ensuite Léa reprend, elle enfante deux autres garçons, Issachar et Zabulon, et finalement on arrive donc chapitre 30, verset 22. Déjà, chapitre 30, verset 1. Genèse, chapitre 30, verset 1, dit « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants, Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Il dit, moi, j'y peux rien, hein, moi. C'est toi, hein, c'est pas moi. Ça fait des histoires hein, dans la maison, à tout niveau. Mais, verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde, et elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Donc Joseph dit, encore un. Mais, donc voilà. La situation dans laquelle naît Joseph. Lui, il arrive, il est numéro 11. Mais avec toute cette tension qui existe à la maison. Et Benjamin viendra plus tard. Benjamin, il naîtra au chapitre 35, une fois que Jacob sera revenu à Canaan. Et en fait, Rachel mourra en donnant naissance à Benjamin. Donc là, vous avez toujours entendu parler des douze fils de Jacob, d'où les douze tribus. Et ben voilà, les douze fils. Et donc chacun donnera son nom à une tribu. Tout ça, ça s'est passé pendant ces 20 ans où Jacob n'est pas soumis, il ne cherche pas la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, on peut être enfant de Dieu et tout ça, et puis après on dit, non, mais moi je vais faire ce que j'ai envie de faire. On va... Après, quand il reviendra à Canaan, il va essayer de mettre sa vie en ordre avec Dieu, mais bon, tout ça, il l'aura encore, hein, tout ça ne se défait pas. Hein, vous savez, Jacob veut contrôler sa vie. Eh bien, les passions de la chair deviennent dominantes. Des jalousies, manipulations, complots, mensonges, et en avant, ça continue, la maison est remplie de cela. Sa femme lui ment, ses enfants lui mentent, Laban le trompe, lui trompe Laban, Rachel va mentir à son père, il y aura toutes sortes de choses. Quand Dieu ne règne pas dans la maison, tout est possible. Hein, quand on vit dans l'éloignement de Dieu, quand on veut vivre sa propre vie, et ben ce qui est naturel à la chair, et ben va dominer. Hein, après, donc c'est difficile. Hein. Après, il faut pas se plaindre. Si j'ai choisi cette vie-là, après il faut pas se plaindre. Hein, mais les gens se plaignent, ils disent ouais, les gens ils sont menteurs, ils sont trompeurs, tout ça. Et toi, je t'ai vu, toi tu fais partie d'eux. Hein. Ou bien, tu es à Dieu, et donc après, c'est eux, ils sont ce qu'ils sont, moi, je suis appartenu au Seigneur, et je vis ma vie. Je suis sous un autre régime. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là où je reviens, c'est que pendant toute cette période, quand même, l'Éternel veillait sur Jacob. De loin, il le laisse faire, et en même temps, il contrôle la situation. Et donc, Genèse 31, 24... Jacob, un jour, parce qu'après, comme vous vous souvenez, il avait 7 ans pour. Il a 7 ans, et il a eu Léa au lieu de Rachel. Donc il fait encore 7 ans pour avoir Rachel. Mais après, pour pouvoir soutenir cette famille, il faut des moyens aussi. Donc il va travailler encore 6 ans pour accumuler un troupeau qui lui permettra de soutenir sa famille. Donc c'est pour ça les 20 ans chez Laban. Mais il va voir que finalement Laban il est en train de le tromper parce que lui il est en train d'augmenter un troupeau et Laban il voit d'un mauvais œil que Jacob est en train d'augmenter un troupeau, surtout qu'en même temps son troupeau est en train d'être diminué. Et ça crée des tensions entre Laban, donc l'oncle, et le neveu. Et donc un jour, Jacob dit à ses femmes, il dit écoutez, je crois que ça va tourner mal ici, il vaut mieux qu'on parte avant que quelque chose explose. Alors il profite d'un jour où Laban est à 2 heures de route, 3 jours de route, en train de tondre des brebis, et il va en profiter pour fuir. Bon, mais comme il est en train de partir avec des troupeaux, et les troupeaux, hein, vous savez, les brebis, les ânes et les chameaux, ça ne court pas vite, tandis que Laban, il a pu le rattraper facilement, il l'a retrouvé. Mais, et c'est dans ce contexte-là, pendant que Laban pourchasse Jacob pour le rattraper, et certainement qu'il a des mauvaises intentions, et Dieu le sait, donc on a ce verset 24, « Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Il dit, « Attention. » Touche pas. Il a dit ni en bien ni en mal. Donc, fais rien. Parce que certainement que Dieu savait qu'il avait des très mauvaises intentions. Il dit, moi, il suffit que je règle le compte avec Jacob, et puis je reprends tout, et puis c'est bon. Certainement qu'il avait ça en tête. Dieu, parce que Dieu protège, Dieu prend soin. Jacob, il est là, il est au dépourvu. Surtout qu'il est en mauvaise posture là, parce qu'il est en train de fuir Laban, il veut le tuer. Mais de l'autre côté, il a Ésaü qui arrive et qui veut le tuer aussi, et qui avait l'intention de le tuer. Et Jacob se trouve, vous savez, quand on fuit Dieu, quand on veut faire sa propre vie, il y a un moment où tout d'un coup, ça se referme de tous les côtés. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de lever les yeux vers Dieu. Chaque personne qui a été enfant de Dieu et qui s'est éloignée du Seigneur, Dieu arrive par un concours de circonstances. On arrive au point où on ne sait plus où tourner et on est obligé de dire Dieu, je viens vers toi. Et Dieu fera ça. Pour le bien de Jacob, pas pour lui faire du mal. C'est pas pour l'étrangler, c'est pas pour le tuer, c'est pour son bien. Il va l'amener au point où Jacob dira, écoute, Dieu, c'est maintenant, je te fais confiance, je te suis. C'est toi qui, en fait, moi, sans toi, je serais mort aujourd'hui. Mais grâce à toi, eh ben, je vis. Et c'est important, et ça en arrive à ce point. Et peut-être que chacun d'entre nous, hein, surtout si on a un certain chemin à... On a fait un certain chemin avec le Seigneur. Il y a eu des moments où on s'est écarté et on a vu comment le Seigneur nous a ramenés. Donc, Jacob veut contrôler sa vie et ça donne... Il se met dans une situation impossible où sa vie est menacée. Il est pris dans un étau qui se resserre. Mais Dieu intervient dans sa grâce. Il parle à Laban et Dieu agit sur le cœur d'Ésaü parce que Ésaü, quand il va trouver Jacob, tout d'un coup, il va l'aimer. Il va être un gentil. Vous lisez l'histoire, je ne vais pas en parler là. Alors, en rentrant, il arrive un moment, et je ne vais pas prendre l'histoire, mais il y a un moment où Jacob combat avec l'ange, et c'est à ce moment-là vraiment qu'il est brisé devant le Seigneur, et c'est un autre homme. Et c'est à chapitre 33 qu'on voit pour la première fois, et donc Jacob, je ne sais pas quel âge il a, il avait déjà, c'est un homme, quand il est parti chez ses parents, il passe 20 ans là-bas, alors vous pouvez imaginer qu'il a 35, 40 ans ou plus. Pour la première fois dans sa vie, il élève un autel à Dieu. Donc, 33 verset 20. Et il éleva un autel, il l'appela El Eloé Israël. Il dit Dieu, le Dieu d'Israël. Pour la première fois, c'est là qu'il déclare. C'est un homme changé. Et puis continue un peu plus loin. Au chapitre 35 et verset 1 à chapitre 35, on voit, on peut commencer à voir ce changement là. Parce que verset 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Donc si vous lisez, je crois que c'est 26, vous lisez, c'est pendant le songe, c'est passé à un endroit et que Jacob a nommé cet endroit Bethel, maison de Dieu. Et là, il fait toute la boucle. Et il revient, Dieu dit, reviens à cet endroit-là. Là où tu m'as entendu la dernière fois, c'est là où tu reviens. Et dans notre vie, si on s'égare du Seigneur, et la meilleure manière de faire l'ordre, c'est de revenir là où on l'a laissé. Et il dit, reviens à Bethel. Et donc, là, il vient à Bethel. Alors, verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous, changez de vêtements, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à l'Éternel qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui. Il dit, moi, je n'étais pas avec lui, mais lui, il était avec moi. Lui, il a veillé sur moi pendant tout ce trajet, mais moi, je n'ai pas fait attention à lui. Et alors, verset 7 nous dit, il bâtit là un autel et l'appela ce lieu El Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Elle veut dire Dieu. Il dit donc le Dieu de la maison de Dieu. Ça ne suffit pas de la maison de Dieu, je veux le Dieu de la maison de Dieu. Et donc là, c'est vraiment Jacob, c'est sa repentance, c'est son retour à Dieu. Et c'est là. Mais quand on arrive par là, Joseph, il a déjà 15 ans. Hein. Et lui, le dernier né. Bon, Benjamin n'est pas encore né. Hein. Benjamin, il est né à la fin du chapitre 35. Benjamin n'est pas encore né. Donc, Joseph, c'est le dernier. Il va avoir 15 ans. Et il y a tous les autres qui sont avant lui. Et pendant toutes ces années où les choses se sont mal passées. Des problèmes, des jalousies, et la tromperie, c'est tout ce qu'il a vu. Il a vu ça chez son père, il a vu ça chez son tonton. Et même chez ses mères, sa mère et les autres femmes, les femmes de son père. Et il n'a vu que ça. Et c'est dans ce milieu-là qu'il naît. Dites-moi, oh, c'est pas ça, c'est pas un milieu pour en faire un prophète. Ben, c'est justement, ça, c'est une chose que je veux faire ressortir ce soir, c'est qu'on n'a pas à maudire le contexte dans lequel on est né, où on a grandi. Parce que on ne peut pas se servir de cela comme une excuse devant Dieu. Pour dire Dieu, t'as vu où je suis né, t'as vu comment on m'a élevé, t'as vu comment c'était à la maison, t'as vu comment c'était. Ah, et après, puis tu veux que je vive la vie chrétienne. Ce n'est pas une excuse. Il dit peu importe où tu es né, peu importe dans quel contexte tu as grandi, ce qui importe, c'est que tu te donnes à moi et que tu choisisses de vivre pour moi. Et donc, Là, bien sûr, les choses vont s'arranger. Dieu va établir une alliance avec Jacob. Et puis, après, il y a la naissance de Benjamin, donc le dernier. Et puis après, on arrive à la fin du chapitre 35, Jacob retrouve son père Isaac, celui qu'il avait trompé 20 ans plus tôt. Il le retrouve. Jacob, Dieu l'avait gardé parce que Dieu avait choisi dès son enfance, Dieu avait décidé que Jacob serait celui qui transmettrait la promesse faite à Abraham. Parce que dans Abraham, il a eu deux fils, il a eu Ismaël, Isaac. Et Dieu a choisi Isaac pour être celui qui transmettrait la promesse. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Même si Ésaü était le premier-né, tout comme Ismaël était le premier-né chez Abraham, c'est pas parce que c'était le premier-né, Dieu choisit celui qui veut choisir, il a choisi Jacob. Et Dieu a préservé Jacob. Heureusement que Dieu a préservé Jacob. Parce que sinon, on n'aurait pas Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ est descendant de Jacob. Dieu a gardé, Dieu a préservé. Quand Dieu fait une promesse, vous savez, les hommes, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais Dieu arrive quand même à utiliser le comportement des hommes pour réaliser son plan. C'est pour ça qu'on peut être tellement sûr, même si on a l'impression que tous les hommes font ce qu'ils veulent et Dieu les laisse faire, on n'a pas peur des promesses de Dieu. Parce que quel que soit le comportement des hommes, et il les laisse libres de faire ce qu'ils veulent, mais il arrive quand même à réaliser son plan. Et donc Jacob a voulu faire ce qu'il voulait, il a choisi sa vie, il a été où il voulait, et il fallait même, dans le plan de Dieu, il fallait qu'il revienne à Canaan, parce que Dieu a dit, c'est là la terre promise, c'est là que tu dois être, et Dieu va se débrouiller pour le ramener. C'est lui qui choisira de revenir, c'est lui qui va, mais c'est Dieu, dans un sens, c'est Dieu qui le ramène. Dieu est un Dieu souverain, dans le sens que ce à quoi il s'engage, il peut le réaliser, tout en laissant l'homme libre arbitre de faire ce qu'il veut. Et donc, et il suffit de lire les journaux pour savoir que Dieu laisse faire les hommes. Mais Dieu est fidèle. Donc, une chose que nous pouvons tirer de là, c'est que le Seigneur veille sur nous, il prend soin de nous, même lorsque nous sommes éloignés de lui. Même dans mes moments de rébellion, mes moments de laisser aller, mes moments de... Je me laisse influencer et tout ça. Mais Dieu, si je suis à lui, il veille sur moi. Et les choses ne seront pas toujours faciles parce qu'il voudra se servir d'eux pour revenir. Après, mais bon, ce qu'il faudra, c'est... Parfois, il faudra vivre avec des conséquences de nos choix égoïstes. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. Tu as fait ce que tu voulais faire. Jacob, tout d'un coup, il ne s'est pas retrouvé avec Rachel, la femme qu'il aimait, et puis tout est arrangé, tout était beau. Non. Il y avait toutes les femmes et tout ce qu'il avait fait, il fallait vivre avec. Et nous allons voir avec l'histoire de Joseph que ce n'est pas parce que Jacob s'est repenti, qu'il a remis sa vie en ordre, que ça ira bien dans la maison. Hein. Ce n'est pas garanti. Eux sont libres aussi, hein, ses enfants étaient libres de leur choix. Il y a un psaume là, je vais terminer avec ça, le psaume 106:15. C'est un psaume qui nous rappelle l'histoire des enfants d'Israël et les agissements de Dieu avec Israël. Et le psaume 106, c'est un psaume où il dit, voilà, Dieu a fait ça, et Dieu a agi, et Israël a été infidèle, mais Dieu est resté fidèle et tout ça. Mais au verset 15, c'est un verset, il dit, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Les enfants d'Israël, il y a eu des moments de rébellion, ils disent, non, on veut ça, on veut à tout prix ça, on veut un roi. Dieu dit, mais vous n'avez pas besoin d'un roi. Non, on veut un roi. Bon, ben, je vous donne le roi. Mais après, il ne faut pas se plaindre hein, quand vous avez des ennuis avec lui. Et vous savez, parfois on dit, mais Dieu, je veux ça, je veux. Il dit, bon, prends-le. Je veux marier à cette fille-là. Mais elle ne connaît pas le Seigneur. Non, mais je l'aime. Prends-le. Mais après, ne te plains pas quand ça ne va pas. Je veux, Seigneur, je veux cet emploi-là, ou je veux ceci, je veux ça. Mais après, bon, je ne crois pas que tu en as besoin. Oui, mais je le veux. Bon, bon alors prends-le. Mais après, si ça passe au vinaigre, tais-toi. Hein. Et vous savez, et Dieu, et parfois, vous savez, les parents font ça avec les enfants. Hein. Vous voyez, quand ils sont tout petits, on décide tout pour eux. Ils deviennent plus grands, ils commencent, le père dit, bon, tu vas voir ce que ça donnera. Et après, nous, on se grand, moi, je suis adulte, je peux faire ce que je veux. Écoute, c'est pas sage. Ah non, mais moi, je veux. Ah, bon, vas-y. Et Dieu est un père. Hein. On disait dimanche, il dit, c'est un père. Mais il dit, mais après il ne faut pas plaire et dire, mais Dieu, je veux... Puis tu es un Dieu d'amour. Tu ne vas pas permettre que les choses tournent au vinaigre. Ah, mais c'est toi qui as choisi. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est toi qui as choisi. Hein? Donc ne te plains pas. Et Jacob, c'est vraiment un exemple. Et puis, bien sûr, toute l'histoire d'Israël. Finalement, dans nos propres vies, on vérifie que c'est un peu vrai aussi. Hein, et le Seigneur nous aide. Mais sachons qu'à tout moment, Dieu est là. Il n'est pas loin. Même si on est dans la rébellion, Dieu n'est pas loin. Et on peut se tourner vers lui, on le trouve. Il dit, je t'attendais. Et on le trouve, on revient à lui. Bon, ça ne remet pas, ça n'arrange pas tout, mais ça, c'est quand même une autre vie. Jacob a mené une autre vie après cela. Et donc, ça c'est le contexte duquel va sortir Joseph. Et Joseph, c'est quelqu'un qu'on admire, mais il est sorti de... Hein, c'est un bijou qui est sorti de la boue. Hein. Mais c'est ce que le Seigneur peut faire avec nous aussi. Hein. Donc c'est pas... Je ne dois pas, Dieu peut me prendre et me donner une vie nouvelle. Alors, voilà, que nous allons nous arrêter là et que le Seigneur...